Dernier rêve avant la nuit, avec les livres lus. La librairie en ligne pour les livres audio, leslivreslus.ch. Dernier rêve avant la nuit. Karine Delphini.
Bonsoir. C'est l'heure des rencontres, rêvées, vécues, poétiques, cocasses. Certaines d'entre elles pourraient être filmées ou peintes. Quelques tableaux qui racontent des instants de vie que nous partagerons en tournant les pages d'Alexandre Voisard, Marie Huot ou encore Camille Laurence. Une tranche de rire et d'absurdité avec du billard aussi. En régie ce soir, Jérôme Nussbaum et les chansons ont été choisies par Jean-Baptiste Roumens. C'est Alain Bachung qui commence.
J'ai des doutes sur le changement d'heure en été. J'ai des doutes sur qui coulent les bateaux, qui jettent les pavés. Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé. J'ai des doutes sur la notion de longévité. Sur la remise à flot de la crème renversée. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des rampes, des carrés, des allongés. Est-ce que vous en avez? Des devises, des pensées, de l'assise du cœur. J'ai des doutes sur l'heure à laquelle tu viens de rentrer. La certitude de t'avoir si fort désiré. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez vu? Je milite au parti zombie. Je milite mais je m'ennuie. J'ai la détente sensible, l'étiquette fragile, le champagne douce. J'honore la passion bulle sans une seule virgule. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des rêves de douceur éveillés. Le goût du danger, des routes à prendre ou à laisser. Est-ce que vous en avez? Du réseau, des rougeurs, des nerfs d'acier. Est-ce que vous en avez déchiffré les affaires, les valises, les noyautés, les médias, les cerises, coupé court à l'appel de la brise et livré le secret des banquises. Est-ce que vous en avez? 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 Est-ce que vous en avez?
Le secret des banquises, Alain Bachung, sur la première. Parfois, les rencontres sont imaginées, rêvées, pensées, mais restent abstraites d'une certaine manière. Et pourtant, la rencontre a quand même lieu. On peut dire ça, oui. Prose 2, c'est un livre d'Alexandre Voisard, publié chez Bernard Campiche. Les appels téléphoniques, durant plus de 2 mois, n'avaient pas cessé. Parfois, je ne répondais rien à la voix mystérieuse. Et parfois, je maugrais de guerre lasse. « C'est entendu, oui, je viendrai. » Cependant, je n'allais pas. Et il arrivait que la voix féminine, d'ordinaire onctueuse et caressante, se fasse brusquement d'une dureté de métal. « Si vous ne venez pas, il vous en coûtera, il vous en cuira. » Je raccrochais bien vite et me plongeais dans la lecture d'Émile Zola pour oublier l'étrange sollicitation, la menace incommensurable. « Pourquoi ne venez-vous pas enfin rue de la Paix, numéro 15, deuxième étage à gauche, à 21h ?» Ce serait bientôt l'été et les jours s'allongeaient. Je pensais qu'à 9h du soir, il allait faire presque jour encore, et cela m'aidait à envisager plus sereinement un tel rendez-vous. Chaque soir pourtant, je remettais ma décision. Et chaque matin, la voix de femme, même lorsqu'elle se voulait voluptueuse, s'enfonçait en moi comme un remords. « Doux agneau blond, comment votre cœur généreux peut-il avec tant de constance manquer à ses promesses ?» Avec le temps, la voix m'était devenue familière. En tout cas, ce n'était déjà plus des appels anonymes auxquels je ne posais plus maintenant qu'une prudence de chat estropié. Je puis même avouer que mon téléphone, n'ayant plus sonné durant une semaine, je commençais à m'inquiéter. Et après 2 semaines de silence, je fus même saisi d'un vertige panique. Je me vêtis avec soin, veillant à ce que mon élégance ne parût trop recherchée, choisissant une cravate marine à pois blanc qui accompagnait parfaitement mon costume de flanelle grise. Et puis je me dirigeais vers la rue de la Paix. Il faisait très doux, les couples flânaient avec nonchalance et bonne humeur. Et je me demandais s'il n'était pas sage de m'asseoir à une terrasse de café plutôt que d'aller à un rendez-vous aussi mystérieux. Arrivé au numéro 15, mes craintes redoublèrent, mais il était trop tard pour renoncer. Au deuxième étage, mon cœur battait très fort. À gauche, il n'y avait pas de nom sur la porte, mais un billet était épinglé. « À Monsieur Anselme Buvard, poète. Malheureusement, j'ai dû partir précipitamment pour Paris, auprès de ma mère malade. Venez, je vous prie, à l'adresse suivante. Pension des Rosiers, 29 rue Thiers, Ville d'Avray. Et si je suis absente, je laisserai un message pour vous. Signé E. PS, mais vous avez été bien long. » Je crus tout d'abord à une farce de mes amis. Mais depuis 2 ans, je ne voyais plus personne et le post-scriptum en forme de 12 plaintes leva mes doutes. Et je sautai dans le premier train pour Paris. À Ville d'Avray, la pension des Rosiers était déserte. Je ne rencontrais qu'une femme de ménage récurant un vaste hall vide. Elle me dit que la maison venait d'être vendue, mais que du courrier, en effet, était resté en suspens sur la grande cheminée. Il y avait une lettre pour moi, que j'ouvris fébrilement. « Ma mère est morte dans mes bras dès mon arrivée. Selon son vœu, je vais à Philadelphie en emmenant ses cendres. Je dois y retrouver mes tantes pour régler quelques affaires. Si vous pouviez m'y rejoindre, 382 Chester Road, votre présence me serait d'un grand réconfort. » Signé E.L. Philadelphie, l'océan à traverser, et New York, qui ne serait qu'une étape. J'hésitais quelques heures, le temps de parcourir mentalement cette immensité, et le soir même, je pris l'avion. Chester Road, Philadelphie, le mystère s'épaissit encore. Une vieille dame cramponnée à une canne m'accueillit, et m'examinant de la tête aux pieds, elle me demanda d'une voix aigre « Vous êtes Monsieur Buvard ?»« All right. » Ma nièce est partie, mais elle vous a laissé un message. » Elle fouilla sous son tablier et me tendit en tremblant une enveloppe blanche chiffonnée. Je reconnus tout de suite l'encre turquoise et la grande écriture sensuelle dont les L s'étirent au-dessus des lignes comme des tentacules. « Ami très cher, je craignais que vous n'ayez le cœur de parcourir cette distance, que vous ne mesuriez le prix que j'attache à cette aventure. J'ai donc eu tort, puisque ce billet est entre vos mains. Hélas, la vie est impossible ici. Je vous en dirai les raisons. Il y a un vide en moi que je n'arrive pas à cerner. Je compte sur vous pour le combler. Je vais vers l'ouest, vers l'océan de paix. Vous me trouverez à Half Moon Bay, dans une villa appelée Bluebird et qui est peinte en bleu. Venez, venez, c'est important pour moi. Permettez-vous de vous dire que c'est important aussi pour vous ? Eleonora. Et je résolus de partir au plus vite. L'agence Swanson & Swan organisa mon voyage à la minute et le lendemain, j'étais à San Francisco. Le soir même, j'arrivais à Half Moon Bay et je n'eus aucune peine à reconnaître la villa bleue, campée sur une éminence rocheuse au-dessus de la grève. La maison étant fermée, je fis quelques pas sur la plage, attendant je ne sais quoi, comme si je sortais de prison, me sachant seul au monde. Et à la tombée de la nuit, des pêcheurs rentraient après avoir largué leurs filets. Je les questionnais dans mon mauvais anglais. Ils connaissaient Eleonora, oui. Ils ne l'avaient pas rencontrée ces derniers jours, non? La dernière fois qu'ils l'avaient aperçue, il y avait maintenant plus d'une semaine. Eh bien, elle naviguait avec un petit voilier tôt le matin. Et depuis lors, on n'avait plus vu le bateau amarré à l'endroit habituel. Je remerciais et je retournais à la villa, dont je fis lentement le tour, lorgnant à chaque fenêtre. Tout était soigneusement fermé. Je m'assis dans un fauteuil d'osier sur la petite terrasse. Et c'est alors que je remarquai quelques objets restés sur la table de jardin. Une bouteille de grappe-fruits à moitié vide, un cendrier avec quelques mégots de camel, un livre de Joyce, un plateau d'étain rectangulaire où se chevauchaient pêle-mêle des crayons, des porte-plumes, des pinceaux, des timbres-poste, des coupures de journaux. Mon attention fut soudain attirée par une enveloppe verte qui débordait du livre. Elle portait mon nom en grandes lettres, au poète Anselme Buvard, et elle contenait une missive et une chaînette en argent. Vous avez compris que vous deviez venir à moi, suivant ce fil que j'ai tendu entre nous, qui unissait nos âmes plus que vous ne le pensez. Mais chaque jour qui passait le tendait davantage, il le tendait vers la mer où je suis appelée depuis l'enfance. Et vous avez trop attendu, trop hésité, le fil s'est rompu là où il devait se nouer. L'océan m'ouvre les bras, il est le père, l'amant, le frère en lequel on se résout. N'oubliez pas ma voix. Si un jour elle parvient à s'élever au-dessus des vagues, où que vous soyez, vous la reconnaîtrez. Elle chantera pour vous seule. Eleonora, C. J'étais désemparée. Le ciel trop bleu écrasait mes épaules. Le va-et-vient de l'océan me soulevait le cœur. J'étais vraiment seule au monde et ce monde allait me broyer comme un brin d'avoine. Il ne me restait que la fuite, la feinte avec l'espace, la ruse avec le temps pour arracher un sursis au néant qui déjà léchait mes pieds. Un car me conduisit de nuit à San Francisco. Le lendemain, je lisais le San Francisco, prenant mon petit déjeuner quand mon regard s'arrêta au haut de la dernière page sur un portrait de femme. La photographie était mauvaise, sombre et floue, et pourtant la netteté du profil était parfaite. Ce qui me fascinait, c'était l'impassibilité de ce visage tendu face à un invisible personnage, un insondable horizon. Et les cheveux étaient tirés en arrière comme une longue crinière de cheval au galop, tendue et droite, avec à peine une légère ondulation vers leur extrémité. On pouvait imaginer tout aussi bien que la femme elle-même montait un cheval lancé à toute allure ou qu'elle était immobile, offerte à quelque tempête sur un promontoire. Je déchiffrais fébrilement le commentaire du journal. La disparition d'Eleonora Carrington, Half Moon Bay. On a perdu tout espoir de retrouver Mrs. Eleonora Carrington et les gardes-côtes ont abandonné les recherches hier. On pense qu'elle aura fait naufrage au cours de la brève tempête qui a déferlé sur le littoral lundi dernier. Mrs. Carrington était une personnalité attachante. Peintre et musicienne, elle passait la majeure partie de son temps en Europe. Elle avait eu une jeunesse tumultueuse, mais après sa rupture avec l'écrivain William Wells, il y a 4 ans, elle fuyait la vie mondaine et se consacrait à son art dans la solitude. Depuis 3 mois, je vis chez mon jeune neveu, Rémi, à Cagnes-sur-Mer. On me dorlote, sa femme apporte des jus de fruits et des magazines. On m'interdit de quitter ma chaise longue. Pourtant, le médecin aurait dit qu'on ne doit à aucun prix me contrarier. Je voudrais écrire, mais les mots restent figés au bout de ma plume, quand ils parviennent jusque-là, car ils se cantonnent plutôt dans ma tête, où ils s'entrechoquent comme des billes folles. Si mon neveu s'absente pour ses affaires, il s'exclame chaque fois en partant « Bah, Marthe saura bien te faire oublier ton Eleonora, n'est-ce pas Marthe ?» La jolie Marthe, de temps en temps, s'approche de moi et me dit doucement, posant sa main sur la mienne « Cher Anselme, vous y croyez, à votre Eleonora ?» Parfois, je goûte des instants d'extrême ferveur. C'est lorsque le mistral se lève et que le ciel se charge de nuages et de colère. Alors je quitte ma chaise longue et je marche jusqu'au bout de la terrasse qui surplombe la mer et j'écoute, j'écoute, oui j'écoute. Mais qu'est-ce que c'est que ces murmures, ces plaintes, ces chuchotements, ces râles lointains que j'entends? Je passerai ma vie, s'il le faut, à les distinguer, à les reconnaître, à les nommer. J'aurai peut-être alors enfin la clé de mon voyage et je pourrai saisir le fil qui mène vers quel horizon, par quel gouffre, à quelle Eleonora.
I gather all the grass to feed your heart at last for you the only one. Sleep out by your side and glance with the pride of being the only one. To observe the world with open eyes and distracted from its own disguise. Under the sea, the sheep are dancing with the stars. I'll chase the wolves away to keep you safe, I may be the only one. I'll take you under my wings and show them how it feels to be the only one. To observe the world with open eyes and distracted from my own disguise. Under the sea, the sheep are dancing with the stars. Thank you.
dernier rêve avant la nuit. Où vont les chevaux quand ils dorment ? Christophe, j'ai entre les mains un joli livre. Je vais vous le lire en entier et ce sera même pas long, ce sera juste beau. C'est une visite au petit matin, la naissance d'une amitié. Une porte s'entrouvre et l'invité pose les yeux sur de jolies choses. Un joli petit univers. Dommage parce que vous verrez pas les peintures de Diane de Bournazel qui illustrent si bien les mots de Marie Huot, publiées aux éditions Almanar, Alain Glorius. Tu m'as invité dans ta maison du fond des bois, celle qui est remplie d'enfants. C'est ainsi que cela commence. On s'ouvre les portes, on s'embarque pour des aventures pleines de musique et de vent, au fond de ton jardin, qu'il se passe des choses. Au petit matin, une fleur a poussé la fenêtre. Je suis venue avec mon cœur plié, mon écharpe et mes souliers bleus. Sur le petit balcon, j'ai regardé ton ciel, tes couleurs, tes lumières. Je pose une pierre sur les bruits de la nuit que je ne connais pas, puis je m'endors dans ton paysage. Les enfants ont le goût de la forêt, on renifle leurs cheveux, ils font semblant de croire que personne n'a mis de cailloux blancs dans leur poche, surtout pas nous. Je te regarde, je vois ta solitude de rêveur de chandelles. Tu déposes tes questions en de muets personnages. Ils nous font signe de la main derrière la vitre. Nous cherchons leur nom dans notre mémoire. Nous espérons qu'ils nous éclairent le chemin. Ici, ni la mer ni les navires, on n'y pense même pas. Rien de salé n'entre dans nos histoires. Mais des arbres, oui, des arbres pleines pages. Tu connais les belles choses que l'on garde sous la mansarde. Des corps perdus dans la lumière, des gestes qui basculent lentement. On n'est pas sûr pourtant que cela soit une danse. Je voudrais des jours simples que tu peindrais dans un livre d'heures, les riches heures de nous. Mon cœur est une poule mouillée qui court dans les talus, poursuivie par des machines énormes. Les cœurs sont des animaux peureux qui courent, puis lentement reprennent souffle dans le noir de leur cage. Le sais-tu? Viendras-tu au bord de la rivière, laver les rayures de ton tapis, comme une filigonde qui croit aux catastrophes? Il y a dans ta voix de légers glissements de terre, petites brisures inattendues où s'engloutissent des secrets que l'histoire recouvre. Sur tes cartes du monde, les pays sont de lumineuses broderies avec une pointe de ciseaux. On défait d'un rien les points de couture des frontières. Ce sont les êtres que tu relis serrés d'un fil. Il neige parfois sur ton cheval blanc et toi seulement le sais. Ce goût de la lumière encore, vers laquelle il se cabre, vers laquelle il cherche sa première joie. Te souviens-tu des sensitives qui se ferment lorsqu'on les effleure? Nos yeux sont ces fleurs-là, quand sur nous lentement tombe la nuit. Dans ta maison, il n'y a pas de clé. Les portes s'ouvrent sous le souffle du vent, de la joie, de tout ce qui splendide les jours.
You this song. Well, I long to be along with you. And if I couldn't help you, I don't know what I would do. I guess I would leave this world alone. Without you, I'm just so much, love you so much, thoughts and love, will I speak only of you, so what else is new, what am I? Well, I know.
since I would leave this world alone. Without you, I'm just born. Days go more and more, I see that your love is all my soul.
Bones, Michael Kiwanuka. Lorsque deux personnages issus de l'univers de Dubillard se rejoignent pour parler du dernier potin et qui concerne un certain Georges, c'est un drôle de dialogue qui s'installe. Publié chez Gallimard, Blaise Angèle est l'un de ces personnages et je fais l'autre. Alors, et Georges ?
Il va bien, comme d'habitude.
Comment ? Mais il nous avait promis de se suicider pour nous donner un sujet de conversation.
Vous connaissez Georges. Quand il faut qu'il change ses habitudes, mourir c'est partir un peu. Il s'agissait d'un voyage. Il s'est comporté vis-à-vis de lui-même comme il se comporte vis-à-vis des trains qu'il doit prendre. Il s'est raté.
Il s'est raté ? Oh, mais quelle fripouille ! On peut pas compter sur lui.
Oh, ça n'a pas d'importance. Qu'il soit mort ou pas, qu'est-ce que ça nous fait ?
Ben, et notre sujet de conversation ?
Un suicide manqué, c'est aussi intéressant qu'un suicide réussi.
Oui, c'est moins pathétique. C'est même plutôt ridicule. Moi, j'ai pas envie de parler d'une chose ridicule aujourd'hui.
Georges n'est jamais complètement ridicule. Même quand il se trompe, il y a un enseignement à tirer de sa conduite. Il avait trouvé une manière très ingénieuse de se suicider, vous savez.
Bien sûr, je suppose qu'il a commencé par faire ses bagages.
Oui, et il a rempli son briquet et son stylo. Ensuite, il a fermé le compteur du gaz.
À sa place, moi j'aurais laissé ouvert. J'aurais même ouvert tous les robinets.
Vous aimez le gaz, vous ?
Oui, j'aime bien. À chaque fois que je veux me suicider, j'ouvre le gaz en grand.
Et ça vous réussit ?
Ah, c'est bien, oui. Mais mon mari peut pas supporter l'odeur du gaz. Mmh. Alors il le referme tout de suite et puis il me dit « Toi, tu t'en fiches, mais qui c'est qui paiera la note du gaz ?»
Ah, c'est vrai qu'un suicide au gaz, ça doit revenir cher. Et quand il ne reste personne pour payer, c'est l'État qui en est de sa poche.
C'est pour ça qu'il parle de nous le parfumer, notre gaz.
Ah.
Oui, sous prétexte que quand il y a une fuite, ça ne sent pas assez. En réalité, ils vont lui donner une odeur infecte pour que personne n'ait plus envie de se suicider avec. Ça leur fera une grosse économie.
En tout cas, ce n'était pas dans les intentions de Georges. Vous le connaissez. À chaque fois qu'il se sert du gaz, ça explose.
Je l'ai remarqué, oui. Alors, quand il a eu fermé le gaz, qu'est-ce qu'il a fait ?
Eh bien, il a fermé l'eau.
Il n'avait pas envie non plus de se noyer.
Non. D'ailleurs, par le froid qu'il fait, s'il avait voulu se noyer, comme il a le chauffage central, il aurait plutôt défoncé un ou deux radiateurs.
Tout de même, se noyer dans l'eau bouillante, ce n'est plus une noyade à proprement parler, c'est plutôt une cuisson. Non, Georges a trop de dignité pour se suicider comme un homard.
Alors, quand tout a été fermé chez lui...
Et le compteur électrique ?
Sauf le compteur électrique. Il a ouvert la porte et il a fait entrer Paulette, qui sonnait.
Il n'aurait pas dû ouvrir. Naturellement, il a sauté sur l'occasion pour se dégonfler.
Non, ils avaient décidé de mourir ensemble.
Paulette et Georges ?
Oui.
Mais c'est dégoûtant ! Et sa femme le sait ?
Pas encore, mais je lui ai envoyé un pneumatique anonyme, il y a un quart d'heure.
Vous avez bien fait. Oh, mais je suis révoltée. Oh, cette brave petite Paulette, hein, qui a l'air si réservée. Venir se suicider avec Georges pendant que sa femme n'est pas là. Et alors ?
Alors, ils se sont assis sur le divan du salon. Ils ont commencé... comment dire...
Oh non, pas possible.
Enfin, non. Ils ont commencé à, mettons, discuter, parce que pour se suicider, il faut avoir une raison. Ils n'en avaient pas, ils s'en sont cherchés une.
Oui, bon, ça, des choses qui se trouvent facilement.
Ils s'en sont trouvés une chacun, assez rapidement, seulement ce n'était pas la même. Vous comprenez, quand on n'a pas la même raison de se suicider, autant se suicider chacun de son côté.
Mm-hmm.
C'est pas la peine de faire ça ensemble. Enfin, au bout de 2 heures, ils sont tombés d'accord et voici ce qu'ils ont fait. Vous allez voir comme c'est ingénieux.
Allez-y.
Ils ont pris un fil électrique, ils l'ont dédoublé, ils se sont mis tout nus.
Oh,
chacun a pris un fil et s'est entouré la taille avec une des extrémités de ce fil soigneusement dénudée. Ils ont ensuite introduit l'autre extrémité dans une prise de courant, Georges branchant la sienne dans le trou positif, Paulette dans le trou négatif.
Oh.
Tout était prêt. Ils se sont approchés tout doucement l'un de l'autre.
Uh-huh.
Ils se sont regardés un moment, une dernière fois.
Uh-huh.
Et puis, ils se sont embrassés sur la bouche.
Oh, mais c'est horrible! Oh là là, le courant les a électrocutés et ils sont tombés raides.
Non, ils ont fait sauter les plombs.
Marchand de sable, je t'ai tué au pied du lit. À relire mon passé, je fais mon insomnie. J'ai donné sans compter, à d'autres j'ai menti. Je pleure, je ris, à ne faire que claquer mes portes de sortie. Mais non, 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 je ne sais pas ce qu'il en reste, vraiment. C'est toujours la vie qui nous la rend. La vie qui nous la rend. Tant pis pour ce qu'il fallait faire, je me fous de ce qu'il fallait fuir. Mais les rires que je préfère me parlent d'un. J'avance les yeux fermés pour ne pas voir que trop grand. Nos jeux d'enfants retournent les sabliers et glissent avec le temps. Mais non, 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 je ne sais pas ce qu'il en reste, vraiment. Mais non, 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 mais la monnaie de la pièce, c'est toujours la vie qui nous. La la vie qui nous la rend. J'ai toujours pas trouvé plus sûr pour rester vivant que de fermer les yeux, ne vivre au corps présent. Mais non, 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 mais vivre qu'au présent, vraiment. Mais non, 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 je ne sais pas ce qu'il en reste, vraiment. Mais non, 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 mais la monnaie de la pièce, c'est toujours la vie qui nous.
This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burn.
Skyfall, Adèle. Nous avons encore une ou deux rencontres à vivre. D'abord celle que Camille Laurence a écrite aux éditions Paul, extraite du livre « Dans ses bras-là ». Ils se sont rencontrés une fois dans un colloque, et depuis ils écrivent. Il est marié, il a 3 enfants. Il lui demande si elle accepte d'être sa sœur. Elle aime recevoir ses lettres. Au début, c'est une joie, ouvrir la lettre et lire, découvrir un homme à travers ses phrases, leur rythme, leur parenthèse. On dirait une respiration de l'esprit, oui, des lettres qui respirent l'intelligence. Elle le provoque, lui dit qu'elle pense aux hommes, lui dit ce qu'elle pense des hommes. Il lui écrit qu'il l'aime. Il lui écrit ce qu'elle veut lire, lui dit ce qu'elle veut entendre, qu'il l'aime. Voilà. Mais dès lors, plus rien n'est possible. Ça ne correspond plus, non. Non, non qu'elle ne l'aime pas. Elle a été tentée de répondre « moi aussi je vous aime ». Je vous aime aussi. Mais ces mots lui ont paru creux comme des moulures de plâtre, bêtes et plats comme le motif d'une frise indéfiniment reprise à la bordure d'une plinthe ou d'un plafond. Je vous aime. Moi aussi. Comme s'ils étaient les mêmes, pas différent, lui au nord, elle au sud, correspondant. Est-ce que ça peut s'écrire sans perdre sa voix au chapitre? Est-ce que ça peut voyager? Est-ce que ça supporte le voyage? Des mots pareils? Elle regrette amèrement le correspondant, quelquefois. Elle aurait dû être patiente, moins trépigner, mieux respecter les bienfaits d'une distance dont elle s'est évertuée à démolir les jalons de stuc au lieu d'en considérer les beautés, les pouvoirs. Elle n'a pas la patience. Elle ne peut pas se prêter à la séduction de l'invisible. L'absence, pour elle, n'appelle pas à l'amour. Et elle refuse cette irritation du désir, cette impuissance à tout rapport que masquent mal les oripeaux du langage. « Je vous aime, moi aussi. » Stuc et toc, il n'y a pas de rapport. Voilà pourquoi elle envoie par le fond, méthodiquement, tout échange épistolaire avec un homme qui lui plaît, ne conservant longtemps sans les aborder que des correspondantes, en lesquelles au contraire se complaît la distance. Elle sait pourtant que les corps répondent souvent plus mal encore que les lettres à l'espoir infini du désir. Mais elle préfère brûler vive dans la nudité de la présence plutôt que de différer constamment la seule réponse possible qui accuse en les magnifiant toutes les différences. Car vous n'êtes pas mon correspondant, je me dois de vous le dire. La seule réponse possible, physiquement possible, est « me voici ».
En avril, je marche sur un fil, le paysage qui dessine, le jour qui passe à la géométrie.
Facile à briser que le fil qui nous relie.
Avril, Jérôme Minière et Brune, extrait de l'album Le Vrai, Le Faux qui est sorti cette année. La dernière rencontre est celle d'une femme et d'un galet. C'est un poème de Catherine Gaillard-Saron, Un petit bout du monde. J'ai trouvé un galet sur le bord de la plage. Un tout petit galet posé sur le rivage. J'ai trouvé un galet un matin de septembre, un beau petit galet sur le sable au ton ombre. Il était rond et vert sur le sable brillant, étincelant de mer sous le soleil naissant. Je me suis arrêtée sur la plage nacrée, je me suis arrêtée pour mieux le contempler. Puis je l'ai enlevé à la mer irisée, enlevé à la mer qui pleurait sous mes pieds. Il était chaud et doux dans le creux de ma main, incroyablement doux ce galet dans ma main. Je l'ai mis dans ma poche, ce petit bout de roche, tout au fond de ma poche, cet enfant de la mer. Je l'ai mis dans ma poche, ce petit bout du monde, tout au fond de ma poche, ce fragment d'univers. Cette portion de terre façonnée par la mer, bercée par le ressac, polie par les courants, ce précieux gemme vert conçu par le néant, pensé par l'absolu, porté par les étoiles. Je l'ai mis dans ma poche, ce tout petit caillou, pour ne pas oublier qu'il porte en lui le tout. Je l'ai mis dans ma poche pour ne pas oublier. Puis je l'ai oublié tout au fond de ma poche.
Où es-tu, toi, que j'attends ? Où serais-tu déjà là ? Partout je te sais présente, mais souvent je ne sais pas. Ici me mènent tous mes pas, ici les chemins de Rome. Et si tout est clair pour toi, mes évidences se déforment, trop petit ou trop grand. Tu me vas comme un gant, mes 10 doigts près de toi gardent leur sang-froid. Tout est minuscule, immense à la fois, au creux dans la bulle. Au loin les couleurs sont belles, au moindre rayon qui passe la lumière m'ensorcelle, papillonnée en rapace, à se jeter sur des fleurs, la, 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 la. Des plantes plus ou moins voraces, à prendre d'assaut les cœurs, à ce jeu de guerre lasse, trop petit ou trop grand, tu me vas comme un gant. Près de toi, garde leur sang-froid, tout est minuscule, immense à la fois, au creux d'un bulle.
La, 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 la.
Comme un gant, mes 10 doigts près de toi garde leur sang-froid, tout est minuscule, immense à la fois, au creux dans la bulle. Est-ce qu'on s'éclatera?
outside my window. I can see a glow shine. Can't escape destiny. Deal, dum, deal, dum, deal, dee. Roll, rock around you, roll.
Allman's Law, Lonely Drifter Karen. Il est temps de fermer nos livres.
Dernier rêve avant la nuit, avec les livres lus. La librairie en ligne pour les livres audio, leslivreslus.ch.
Jérôme Nussbaum a réalisé cette émission. Jean-Baptiste Romain a choisi les chansons après les informations. Jean-Marc Richard, très belle fin de soirée, les 22h.